Studio Tamani, voici les informations en français.
À Tessit, dans le cercle d'Ansongo, les populations continuent de fuir l'insécurité. Au même moment, la présence des hommes armés à bord de plusieurs véhicules est signalée dans la région de Koulikoro. Le président togolais Fornia Singbe est à Bamako depuis ce matin dans le cadre de l'affaire des 49 soldats. À cet effet, il tient une séance de travail avec le président de la transition, Assimi Goïta. En ce début du nouvel an, les populations du nord et du centre souhaitent le retour de la paix et la stabilité au Mali. Leur réaction dans notre rubrique, on en parle. C'était là le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. La situation sécuritaire dans le cercle d'Ansongo reste précaire. De sources locales, les populations des villages environnants de Tessit continuent de se réfugier vers le chef-lieu de commune. Ces personnes fuient les affrontements entre groupes armés. Les responsables communaux invitent les autorités du pays à trouver rapidement une solution au risque d'assister à une insécurité alimentaire. Pendant ce temps, la présence des hommes armés dans des véhicules est signalée à Kolokani, dans la région de Koulikoro. Khalifa Goïta.
La situation humanitaire dans la ville de Tessit devient inquiétante selon des sources locales. La localité est sous embargo des groupes terroristes se réclamant de l'État islamique au Grand Sahara depuis quelques jours. Les mêmes sources rapportent que la population manque de vivres. Des habitants des villages environnants continuent de se réfugier à Tessit. Pour ravitailler la ville en produits de première nécessité, des commerçants transportent des marchandises dans des charrettes au péril de leur vie, expliquent des autorités locales. Ces dernières demandent à l'État de leur venir en aide. Au même moment, des hommes armés ont été aperçus dans les villages de Gouminé, Bougoudjé et Koroko, communes de Guihoyo, cercle de Kolokani. À chaque passage dans un village, ces présumés djihadistes invitent les habitants à des réunions, rapportent des sources locales. De nombreuses sources signalent aussi des mouvements des hommes armés dans les environs de Kati, à 15 km de Bamako.
Pour des spécialistes des questions sécuritaires, l'État doit apporter des réponses idoines dans sa gouvernance. Cela permettra, disent-ils, d'éviter l'enrôlement des personnes au sein des groupes armés partout où ceux-ci sont signalés. Babada Kono, secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité au CGS, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
Dans toutes les localités du pays où les mêmes fragilités, vulnérabilités structurelles qu'on rencontre, par exemple dans le nord ou le centre du pays existent, il y a la probabilité d'émergence de groupes extrémistes violents qui recrutent au sein des populations des personnes frustrées qui ont les griefs contre l'État. Je pense que la réponse militaire à elle seule, elle est insuffisante. Elle doit être accompagnée d'autres types de réponses parce que la menace, elle, prospère sur des facteurs qui sont liés à la gouvernance et ces réponses doivent rentrer dans le cadre d'une solution globale intégrée qui comprend d'une part la réponse militaire, mais aussi les réponses politiques.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, le président togolais Fornia Singbe est facilitateur dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens est arrivé ce mercredi matin à Bamako. Cette visite d'amitié et de travail de 24 heures intervient après la condamnation à 20 ans de réclusion criminelle et à la peine de mort de ces militaires ivoiriens par la justice malienne. Les détails avec Halima Yatara.
Le président Fornia Singbe a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako Senou par Assimi Goïta. Selon une note de la présidentielle, les deux présidents ont eu des échanges dans le pavillon présidentiel de l'aéroport. Des échanges qui se sont poursuivis au palais de Koulouba. Mais rien n'a filtré de ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Fornia Singbe obtiendra-t-il la libération des 46 soldats ivoiriens après la décision de la cour d'appel de Bamako? C'est la grande grandes questions au centre de cette visite du président togolais. Il faut aussi noter que dans son discours à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré à ses concitoyens que les 46 soldats condamnés à 20 ans de réclusion criminelle regagneront bientôt le sol ivoirien.
Autre actualité du jour, un atelier de deux jours sur la création des bureaux régionaux des ressources humaines a eu lieu à Bamako la semaine dernière. Pour le ministre de la Refondation, l'action vise à mettre en œuvre les réformes institutionnelles et administratives pour le développement des ressources humaines. Ibrahim Ikassa Maïga est au micro de Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
C'est une étude que les autres autorités ont commanditée pour faire le point de la gestion des ressources humaines au niveau régional. Les structures existantes ont démontré leurs insuffisances puisqu'il n'y a pas de relation fonctionnelle établie entre la Direction nationale de la fonction publique et justement les services qui gèrent le personnel au niveau régional. Il s'agit d'avoir de meilleurs outils pour mieux gérer les effectifs, les carrières, l'évolution, la formation dans les régions pour pouvoir faire une meilleure coordination avec le niveau central, donc le niveau national. Toutes les régions sont concernées.
Sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de la corruption, la prévention dans la lutte contre le phénomène, tel était l'objectif affiché par l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Mali cette semaine. Cependant, pour les organisations de la société civile, il faut une réelle volonté politique pour lutter efficacement contre le phénomène. Ali Cissé.
Pour la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, la lutte contre la corruption passe nécessairement par le changement de comportement des citoyens. Ibrahima Koulibaly est membre de la coalition.
Pour moi, la corruption, c'est un discours qu'on est en train de tenir, mais tant qu'il n'y a pas la volonté politique bien affichée pour vraiment mieux lutter contre cette corruption-là, mettre fin à l'impunité, on va vraiment continuer chaque année à parler de corruption, mais on ne va pas sortir du problème.
Du côté de l'Association malienne pour la lutte contre la corruption et la délinquance financière, on estime que le phénomène a pris de l'ampleur à cause de l'impunité. Ainsi, pour mieux lutter contre la corruption au Mali, il est nécessaire de mettre en place une stratégie nationale, a indiqué Moussa Ousmane Touré, président de ce regroupement.
Il faut également une politique de promotion de bonne gouvernance, ce qui n'existe pas au Mali. Le Mali ne s'est toujours pas doté de sa politique de lutte contre la corruption. Il faut également que ceux qui sont nommés pour conduire la lutte contre la corruption soit vraiment des hommes intègres.
À noter que la semaine dédiée à la lutte contre la corruption s'est achevée le jeudi 15 décembre 2022.
À présent, la rubrique « On en parle ». L'an 2022 a été parsemé de plusieurs difficultés, tant sur le plan sécuritaire, sanitaire et économique. Pour la nouvelle année 2023, les citoyens maliens de Bandiangara à Ansongo, en passant par la région de Kita, souhaitent a priori le retour de la paix et la stabilité. Dans notre rubrique « On en parle », suivons ces réactions recueillies par Adama Amadou Haïdara avec le concours de nos correspondants.
La paix et la sécurité pour le nouvel an.
Pour les aides alimentaires, on demande aux autorités de passer directement à la distribution. Avec les hommes politiques, tout le monde n'en bénéficie pas.
Pour cette année 2023, nous voulons vraiment la sécurité sur l'ensemble du territoire du Mali et c'est surtout dans le cercle d'Ansongo.
Il y a la vie chère. Même si tu es bien payé, tu ne peux vivre que pendant quelques jours avec ton salaire.
Et la paix règne au pays d'Ogon et à Bandiangara.
Fasse que la paix revienne dans notre pays. Sinon, on souffre vraiment.
Que l'année 2023 soit pour nous tous une année de paix, de réconciliation.
On demande aux autorités d'être attentives aux préoccupations des populations.
On veut que les prix des denrées alimentaires baissent.
Dans la rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, Adam Amadou Haïdara nous parle des noms ou expressions utilisées pour indiquer les lieux ou rues dans la capitale Bamako.
Dans la capitale malienne, quitter un endroit pour un autre n'est pas toujours chose facile. Et surtout quand on ne connaît pas l'adresse de là où on se rend. Alors il faut beaucoup d'attention et de patience au moment de l'indication du lieu. Car à la place des numéros des rues non codifiées et des avenues, voilà ce que l'on entend généralement. Quand tu arrives à Pinebakari, tu vires à gauche, deuxième porte à droite, il y a un grand hangar devant la maison et c'est là-bas. Ou bien, arrête-toi devant Warakasirafara. Une fois sur place, on viendra te chercher. C'est pas tout. Il est aussi très fréquent d'entendre des noms dans les orientations comme Wotoro Kare, Fai Kasirafara, Metiske Kaplaki, Warabasaba, Manyanka Tournant et j'en passe. Ces repères sont peut-être faciles à retenir, hein, mais avec la modernisation, il peut avoir des améliorations. Sinon, pour te rendre chez moi, quand même, c'est très simple. Vous dépassez la boutique de Maïga à gauche, un pneu à l'angle et à droite, avancez juste un tout petit peu, dernière porte à gauche, et vous êtes arrivé.
Nous recevons Imran Akilou Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imran, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Bonsoir Amset Touré, transition au Mali, quel bilan 2022 sur le thème du Grand Dialogue? Et pour cela, nous avons trois invités sur ce plateau. Oumar Diarra, membre de la CPM, Convention pour le Mali, soutien à la transition. Ibrahima Tamega, porte-parole du cadre d'échange de partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et Dr Mariam Sidibé, spécialiste des questions sécuritaires.
Merci Imran, vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujotamani.org. C'est donc la fin de ce journal. La mise en onde a été assurée par Noum Djiré. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine Santé. Le port des verres est de plus en plus pratiqué à Bamako et à l'intérieur du pays. Très souvent, cela se fait sans prescription des spécialistes au préalable. Une situation qui peut avoir de graves conséquences sur la santé des yeux, préviennent les ophtalmologues. L'utilisation anarchique des lunettes, quelles conséquences sur la santé oculaire? C'est le sujet du magazine Santé réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko.
L'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA, est spécialisé dans la prise en charge des maladies des yeux. Les consultations, les interventions ophtalmologiques et les prescriptions des verres sont fréquentes dans ce centre hospitalier universitaire. Selon l'optométriste opticien à IOTA, Dr Malik Dambélé, les malades souffrant des problèmes oculaires sont issus de toutes les couches socio-professionnelles.
C'est dû au fait que maintenant, il y a trop d'écrans. Les téléphones portables, l'écran d'ordinateur, les immeubles qui sont vitrés maintenant, la télévision. Avant, la vision était pratiquement en noir et blanc. Mais maintenant, avec tant de couleurs, l'environnement même est saturé par le phénomène de vue. Parce que c'est l'œil qui donne à peu près le 95% de l'information de l'homme. Des problèmes sur ce côté, tu es pratiquement un vrai handicapé.
Le commerce des lunettes dans la rue a pris de l'ampleur au Mali. L'optométriste opticien prévient les usagers contre toute utilisation des lunettes sans ordonnance. Dr Malik Dambélé.
Tout le monde doit porter des verres pour pouvoir protéger les yeux contre les intempéries, le vent, la poussière et autres. Mais il faut que ça soit des verres médicalisés. Ce n'est pas n'importe quel verre. Parce que de nos jours, on constate qu'il y a des chinoiseries qui sont sur le marché à bas prix, mais généralement qui n'ont pas de traitement adapté pour les yeux. Ça provoque même des pathologies souvent. On doit tout le temps faire une consultation au préalable. Les verres correcteurs d'abord, il y a deux défauts, sinon trois défauts visuels qu'il faut compenser. Il y a la myopie, il y a l'hypermétropie, plus la presbytie, qui n'est pas un défaut visuel, qui est une évolution naturelle même de l'organisme qui commence à partir de 40 ans.
Pourtant, ce discours ne convainc pas tous les porteurs de verres. De nombreuses personnes continuent d'acheter des verres sans prescription médicale. Ils trouvent que les lunettes des vendeurs ambulants sont moins chères par rapport à celles vendues chez les opticiens.
Parce que je suis myope, donc je les porte pour bien voir les choses. C'est permanent. Normalement, il faut être conseillé pour les porter.
Non, ce n'est pas correct. C'est un verre simple.
Oui, je porte des lunettes généralement par plaisir.
Me protéger contre souvent les insectes, souvent les poussières. Oui, oui. Sinon, c'est pas un médecin qui m'a recommandé.
Ce n'est pas de l'esthétique. C'est une recommandation médicale.
Il y a beaucoup de poussières à Bamako. Je porte des lunettes pour protéger mes yeux.
Joseph Koné est opticien depuis près de 10 ans. Nous l'avons rencontré en pleine confection des verres dans son cabinet. Notre interlocuteur guide et oriente les usagers par rapport aux montures et au choix de leurs verres.
Il y a ce qu'on appelle des lunettes vision unique, unifocale, la vision de loin et un verre de lecture. Le patient qui a les moyens va combiner ces deux-là. Pour corriger le défaut visuel, on porte des lunettes corrigées. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les verres de protection, les verres anti-reflets. D'abord, la durée de confection dépend. Pour les verres unifocaux, on peut le faire en une journée. Pour les verres de commande, quand la correction est forte ou bien quand c'est des verres progressifs, on commande à l'extérieur. Le prix, c'est en fonction de deux critères. Le type de verre et le type de monture. Le prix minimum, c'est 10 000. Ça peut aller jusqu'à 200 000, 250 000, 300 000.
Les spécialistes des maladies oculaires invitent les autorités à prendre des mesures nécessaires pour sensibiliser les populations sur les dangers que représente le port des lunettes non médicalisées.